L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore une fois aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème la parabole du fils prodigue. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi pour entendre ta parole, pour entendre ton message, pour entendre tes instructions, tes directives et tes recommandations, Père. Bénis les différents auditeurs qui nous écoutent de par le monde francophone. Bénis ceux qui nous écoutent au travers des radios, des sites internet, des supports informatiques. Bénis les radios qui nous assistent dans ce travail. Seigneur, nous ne voulons pas parler d'une religion, nous ne voulons pas parler d'un homme, mais nous voulons parler du Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre, du Père éternel, de celui qui a sauvé tous les hommes au travers de Jésus-Christ. Nous voulons parler de Jésus-Christ. Père, fais-nous du bien encore une fois. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. La parabole du fils prodigue, je vous invite encore à lire dans Luc 15. On va juste prendre les trois premiers versets. Luc 15. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Pourquoi je me limite encore à ces trois premiers versets, c'est parce que nous allons encore relire le psaume 73 ou le psaume 73 pour l'étudier. Parce que je trouve que Asaph nous enseigne aussi suffisamment sur cette vie chrétienne qui est tellement attaquée par les convoitises des choses à l'extérieur qui peuvent nous pousser à abandonner notre vie chrétienne, qui peuvent nous pousser à abandonner Jésus-Christ. Donc, une parabole comme la... Il ne veut pas nous enseigner des choses pour que nous puissions nous gratter la tête, ne pas comprendre. Il veut nous enseigner et il veut que nous puissions nous améliorer. Comme toute parabole, on peut appliquer une parabole à toute classe sociale, aux païens comme aux chrétiens. Mais moi, personnellement, je suis pleinement convaincu que la parabole du fils prodigue est d'abord une parabole qui s'adresse à ceux et celles qui connaissent déjà Jésus-Christ. Pourquoi je dis ça ? Parce que les deux enfants dans cette parabole, les deux fils dans cette parabole, sont dans la maison de leur père. Ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur. Je ne veux contredire les enseignements de personne. Au contraire, je veux simplement apporter une nouvelle lumière, éclaircir cette parabole par rapport aux enfants de Dieu. Le fils cadet qui va se rebeller est dans la maison de son père. Il ne commence pas la rébellion à l'extérieur de la maison de son père, mais il commence la rébellion dans la maison de son père. Il dit à son père, « Mon père, donne-moi ma part de bien qui doit me revenir et puis laisse-moi tranquille, je veux aller vivre ma vie, je veux aller vivre dans la débauche, dans l'adultère, dans la fornication, dans l'homosexualité, dans la drogue, dans l'ivrognerie, dans le tabagisme, dans le meurtre, dans les avortements, dans l'occultisme. Bref, je ne veux plus être sous ta supervision, je veux être sous la supervision du péché. » Mon frère, ma sœur, combien d'entre nous, nous disons nous chrétiens, mais les actes que nous posons dans notre vie de tous les jours prouvent que nous sommes de ceux et de celles qui avons dit à Dieu, nous ne voulons plus de ta supervision. Vous allez peut-être me dire, mais frère, c'est pas possible. Comment est-ce que dans la maison de Dieu, un homme peut ne plus aimer Dieu? Je suis même en train de penser à une discussion qu'on a eue dernièrement au travail avec des collègues. Il y a un ami qui a dit, comment peut-on être dans l'église et vivre encore comme ça dans la débauche? Je ne voulais pas intervenir parce que c'était tout le monde qui donnait son avis et j'écoutais et ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait dire, c'est vrai la question qu'il pose. Comment peut-on être dans la maison de Dieu, être au service de Jésus-Christ, mais faire des choses, appliquer des choses et vivre des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible? C'est parce que justement, nous n'avons pas encore compris à qui nous appartenons dès l'instant où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Mon corps ne m'appartient plus. Mon argent ne m'appartient plus. Ma maison ne m'appartient plus. Le véhicule ne m'appartient plus. Ma voix ne m'appartient plus. Mon sommeil ne m'appartient plus. En fait, j'appartiens à Jésus-Christ. Alors, si j'appartiens à quelqu'un, ça veut dire que je vais rendre compte à cette personne-là sur les dons et les talents qu'il m'a donné. Le fils cadet ne veut plus de Dieu. Il le dit, lui au moins il le dit et il agit. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne le disent pas, mais qui agissent de cette manière-là. Voilà pourquoi. Et dans Ésaïe et dans le livre de Matthieu, il est parlé de « Il y a une catégorie d'hommes qui m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Le jeune homme dans cette parabole a entendu des choses agréables qui se trouvent en dehors de la maison de son père. Il avait l'air étroit dans la maison de son père. Il se sentait comme freiné, dans l'incapacité d'exploiter à fond son potentiel. C'est comme ça que le diable trompe beaucoup d'enfants de Dieu. Ils vous disent, mais vous avez une belle voix. Pourquoi vous voulez seulement chanter des chansons chrétiennes? Chantez aussi pour tout ce qui est autre chose que chrétien. Vous pouvez vous faire de l'argent. Oui, c'est bon. Vous allez vous faire de l'argent, mais regardez la vie de ceux et de celles qui chantent pas pour Dieu, qui se font de l'argent avec leur voix, qui sont des professionnels de la musique. Regardez leur vie, tant familiale que, j'allais dire, professionnelle. Regardez leur vie. Regardez ces grandes célébrités du showbiz, de la télé, de la musique, des livres. Beaucoup se droguent. Beaucoup vivent dans l'alcoolisme. Beaucoup se rejettent eux-mêmes. Il y a une très célèbre chaîne américaine, traduise en français, je ne veux pas citer le nom pour ne pas faire la publicité, de raconter l'histoire et la vie des célébrités du monde américain. C'est très intéressant, j'aime beaucoup regarder cette émission. Et quand je finis cette émission, je suis toujours ébahi ou épaté par comment ces gens ont dévié. Beaucoup ont commencé très jeunes, mais en grandissant, quand on parle de leur vie, arrêtés pour alcoolisme, arrêtés pour drogue, arrêtés pour violence, d'autres ont fini dans le suicide. Satan est un menteur. Tout ce qu'il veut faire dans votre vie, c'est vous voler, vous égorger et vous détruire. Il veut vous voler la paix, il veut vous voler votre vie, la vie divine que Dieu a placée en vous, il veut vous voler votre salut et il veut détruire et votre corps et votre âme et votre esprit et votre famille. Il peut vous donner des milliards de dollars, des centaines de milliards d'euros, mais son but est de vous détruire. Quand vous lisez l'histoire du fils prodigue à la fin, vous vous rendez compte qu'il a été détruit. Il n'est pas mort, mais il a été détruit. Détruit dans sa santé, détruit dans ses émotions, détruit dans sa richesse, parce qu'il n'a plus voulu de la supervision de son père. Proverbe 5, versets 1 à 7. Je l'ai lu l'émission précédente, mais j'aimerais encore lire. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, c'est un poison, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. C'est un avertissement que Dieu vous donne, et à vous et à moi. Ne nous écartons pas des paroles de la bouche de Dieu. Ce que Dieu appelle mal, c'est mal. Ce que Dieu appelle bien, c'est bien. Mais combien d'entre nous, nous alignons aux pensées du monde? Ce que le monde appelle bien n'est pas forcément bien pour Dieu. Qu'est-ce que nous retrouvons aujourd'hui? Des orgies sexuelles. Aujourd'hui, le monde trouve que c'est normal qu'un malade donne l'autorisation à son médecin de le tuer. Aujourd'hui, on trouve que c'est normal, après avoir eu des relations sexuelles et qu'un enfant a été conçu, on trouve que c'est normal de tuer cet enfant dans le ventre de sa mère sous prétexte que ce n'est pas encore une vie. Mais c'est une vie. Aujourd'hui, on trouve normal, lorsqu'on détourne de l'argent, dans beaucoup de pays africains, c'est comme ça, hein? Quand on détourne de l'argent, dans beaucoup de pays africains, on est considéré comme étant un homme. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mon frère. Ce n'est pas normal, ma sœur. Ce que Dieu appelle bien, nous devons l'appeler bien. Ce que Dieu appelle mal, nous devons le considérer mal. Satan va dire à Adam et Ève, quand vous relisez l'histoire de Genèse 3 sur la chute de l'homme et de la femme, Satan va dire à Adam et Ève que non, Dieu vous a dit que, il paraît que Dieu vous a dit de ne pas manger les fruits. Oh non, Dieu n'a pas dit ça, il a dit qu'on pouvait manger tous les fruits, mais sauf de l'arbre de la connaissance. Parce que si nous mangeons, nous allons mourir. Le diable va dire non, Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous allez devenir comme des dieux. En fait, Satan voulait faire passer Dieu pour un menteur. Et c'est ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. Combien d'enfants de Dieu croient que toutes les choses qui sont dans le monde sont bien meilleures que d'être dans la présence de Dieu? Combien d'entre nous avons-nous été moqués, on s'est moqué de nous parce que nous marchions avec Christ? Ah, peut-être parce qu'on n'avait qu'une seule paire de chaussures, un seul pantalon, une seule chemise. Dieu est en train de nous former, mais combien se sont laissés abattre? Je me rappelle moi-même, il m'arrivait de sortir tard la nuit et de pleurer dans mon cœur, de dire « Seigneur, Seigneur, est-ce que j'ai mal fait de te servir ?» J'étais un peu comme Asaf dans le psaume 73 ou 73, lisons-le. Il dit au verset, à partir du verset 1, au psaume d'Asaf, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir et mes pas étaient sur le point de glisser. » Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Vous voyez? Moi aussi, ça m'est arrivé. Je dis, mais les autres sont peinards. S'ils ont besoin d'argent et qu'ils ne peuvent pas l'avoir par voie légale, ils utilisent le vol et ils sont heureux. Nous, les chrétiens, nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous avons des règles et des principes qui, des fois, quand on ne les comprend pas, on a l'impression que Dieu nous emmerde. Je m'excuse. Que Dieu nous embête, mon frère, les règles, mon frère, ma sœur, les règles que Dieu a établies dans la Bible que nous devons respecter, ce n'est pas d'abord pour lui faire plaisir à lui, c'est aussi dans notre propre intérêt. Parce que regardez comment certains ont fini leur vie. D'autres ont bien commencé, mais ils ont mal fini. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint, donc ils sont en bonne santé. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Donc ils expriment toutes les mauvaises choses qu'ils ont en tête. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu sera-t-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils croissent dans leur richesse. Vous voyez la conception d'un enfant de Dieu sur le monde des païens. Il dit, avant, voilà comment je voyais les choses. Peut-être que vous êtes encore à ce stade-là à le voir. Quand je regarde les païens, je me dis, ils ont l'air bien. S'ils ont envie de boire, de s'enivrer, il n'y a pas de problème. De coucher, pas de problème. De voler de l'argent, pas de problème. Hein? Et apparemment, le jugement de Dieu ne tombe pas sur leur vie. Oui, oui, on a des fois l'impression, c'est comme ça. Moi-même aussi, j'ai pensé comme ça dans certaines situations. Mais Dieu m'a montré que je m'étais trompé. Dieu m'a montré la fin de certaines personnes. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai avalé mes mains dans l'innocence, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande. En d'autres termes, il a réfléchi, il a analysé. Si je fais comme ces païens, si je marche comme ces païens, si je parle comme ces païens, si je me comporte comme ces païens, je vais trahir Dieu. Mais si je continue à marcher avec Dieu, je vais manquer de vêtements, je vais peut-être manquer de nourriture, je vais peut-être manquer de travail, je vais peut-être manquer de mariage, je vais peut-être manquer des enfants, je vais peut-être manquer une voiture, peut-être mon ministère ne va pas avancer. Il est en train de réfléchir avec des pensées humaines. Il réfléchit selon son entendement et selon son intelligence. Et il se dit, quand je compare cela, j'ai mal dans mon cœur et c'est difficile. Au verset 17. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Ça, c'est vraiment très beau. Il dit, je ne me suis pas limité à leur vie maintenant, mais j'ai maintenant analysé la fin de leur vie. Écoutez, mon frère, écoutez, ma sœur. Nous avons commencé une vie ici sur terre. Elle a un début. Et il y aura aussi une vie, il y aura aussi une fin de notre vie ici sur terre. Ne vous trompez pas, il n'y a personne qui va vivre éternellement dans ce corps qui est corrompu par le péché. Jusqu'à ce que Christ vienne, si Christ ne revient pas bientôt, enfin il va revenir bientôt, mais s'il ne revient pas, ce que vous et moi nous soyons morts, attendons-nous un jour ou l'autre à mourir. Personne ne va vivre éternellement. Donc ça veut dire qu'il y a un début dans notre vie sur cette terre et il y a une fin. Comment vous voulez finir la fin de votre vie? C'est bien. C'est bien. C'est bien. Vous allez peut-être me dire, vous êtes une prostituée, vous faites votre argent. Vous avez votre commerce de prostitution, de pornographie, de drogue, de guerre, de boisson. D'accord. Mais comment ont fini leur vie ceux qui ont pratiqué ces choses avant vous? Comment ils ont fini leur vie? C'est bien de s'engager sur une voie. Mais le but final ou l'aboutissement de cette voie, c'est quoi? Personne n'entre dans une université, dans une faculté, sans savoir ce qui va devenir après cette université. Je m'explique. Vous entrez en faculté de droit pour finir avocat, pour finir juge. Ça veut dire que il y a des débouchés. On vous dit, si vous faites des études de droit, vous devenez ceci, vous devenez cela. C'est la même chose avec la vie de péché. Le salaire du péché, ce n'est pas la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de la vie, c'est Jésus-Christ. Donc, quand vous vous engagez dans une vie de péché, pensez plutôt à vous poser la question, comment je vais finir ? Aujourd'hui, nous sommes choqués de voir sur Internet, sur des sites Internet, des hommes et des femmes qui ont des relations sexuelles pour avoir des points à l'université. Aujourd'hui, nous sommes choqués de voir des hommes qui détournent de l'argent. Aujourd'hui, nous sommes choqués de voir des rébellions des hommes et des femmes qui sont en train de tuer des innocents pour faire de l'argent. D'accord. Mais vous qui pratiquez ces choses, quelle sera la fin de votre vie? Satan peut toujours venir vous dire, non, l'autre avait, il s'était trompé, il n'était pas allé. Ok, d'accord. Mais est-ce que vous êtes sûr que Satan vous dit la vérité? Non, Satan ne dit jamais la vérité. Quand j'eus réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Donc, le psalmiste ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Jusqu'à ce que, on va se dire que Dieu lui a parlé. Et Dieu est en train de vous parler en ce moment, mon frère. Dieu est en train de vous parler en ce moment, ma sœur. Comment allez-vous finir la fin de votre vie? Ne nous laissons pas tromper par le diable. Ne nous laissons pas séduire par le diable. Parce qu'il y a une fin à votre vie. Et ce sont des principes que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il doit le moissonner. Si vous avez semé pour la mort, si vous avez semé le péché, vous devez moissonner la mort. Vous n'aurez pas autre chose. Et quand on parle de la mort, on ne parle pas de la mort physique, mais on parle de la mort spirituelle, qui est de la séparation de Dieu avec sa créature pour l'éternité. Combien il y a d'hommes et de femmes qui se laissent tromper par le diable, au travers même de la religion. Proverbe 4, verset 14. Proverbe 4, verset 14. Plutôt, commençons au verset 10. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Verset 15. Évite-la et n'y passe point. Détourne-toi et passe outre. Ce sont des conseils que le Saint-Esprit est en train de nous donner au travers du livre de Proverbes. Ne marchons pas sur la voie des méchants. Le diable nous fait croire, nous montre les merveilleuses choses qui sont dans le monde. D'accord. Mais nous savons que Dieu est la source de toute merveille. Dieu est la source de toute bénédiction. Satan est un menteur. Il engendre le mensonge. Jésus-Christ est la vérité. C'est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la source de vie. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. Le bonheur se trouve en Jésus. Le bonheur ne se trouve pas loin de Jésus-Christ. Le Fils prodigue l'a compris par expérience. Mais Dieu est en train de nous prévenir maintenant, mon frère, ma sœur. Ne sortons pas de la présence de Christ. Ne lâchons pas la main de Christ. Gardons nos pensées. Gardons et surveillons nos pensées parce que le diable commence sa grande bataille dans nos pensées. Il veut absolument nous détruire. Lisons un peu Romains 12, verset 2. J'aimerais le relire. Pourquoi je dis relire? Parce que je l'ai lu dans une émission précédente. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul s'adresse à des chrétiens de Rome, mais il leur dit, soyez transformés, soyez changés, soyez renouvelés dans votre façon de concevoir les choses. En d'autres termes, alignez-vous à la parole de Dieu. Écoutez mon frère, le guide du chrétien, c'est vrai que c'est Dieu, c'est vrai que c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est aussi la parole de Dieu, c'est aussi la Bible. Ce que la Bible condamne, condamnez-la. Ce que la Bible approuve, approuvez. Ce que la Bible recommande de faire, faites-le. Ne vous conformez pas au présent siècle. Aujourd'hui, on autorise le mariage homosexuel. Aujourd'hui, on autorise le mariage homosexuel. L'avortement, on dit que c'est normal. Ce n'est rien de grave. Aujourd'hui, vous pouvez voler 10 000 dollars, 100 000 euros, on dit que ce n'est pas si grave que ça. Mais la Bible condamne cela. Attention mon frère, attention ma sœur, ne nous laissons pas séduire. Dans Éphésiens 6, verset 16, Éphésiens 6, verset 16, Paul dit ceci. Parmi les armes spirituelles du chrétien, il dit, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, vous allez renouveler vos pensées, et vous allez vous protéger des traits, c'est-à-dire des tirs enflammés du diable. Le Seigneur me faisait comprendre ceci, qu'à l'époque où on avait écrit ce verset, et à l'époque de certaines guerres dans l'ancien temps, avant d'attaquer, la première armée qui attaquait, utilisait des flèches avec des flammes et lançait au loin dans le but de tuer, d'enflammer et de faire un maximum de dégâts, avant qu'il y ait un corps à corps. C'est la même chose, le diable est en train de faire la même chose. Le diable n'a pas accès directement à nous parce que nous sommes dans la présence de Dieu, parce que nous sommes sous la protection de Dieu. Alors, il lance des traits. Il nous montre de loin que, regarde, c'est pas si mauvais de sortir avec une autre femme. C'est pas si mauvais d'aller en boîte de nuit. Ce n'est pas si mauvais la drogue. Ce n'est pas si mauvais l'alcool. Ce n'est pas si mauvais telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Mais dès que nous ouvrons les portes au diable, maintenant il va faire un corps à corps avec nous. Et il a été suffisamment plus malin pour faire tomber Adam. Et il sait qu'il va nous faire tomber. Alors, Paul nous dit, prenez ces armes, combattez et ne vous laissez pas vaincre par le diable. Nous devons contrôler nos pensées. Nous devons contrôler ce que nous regardons, ce que nous entendons, ce qui a une influence sur nous. J'aime ce que Paul dit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et je ne me laisserai asservir par rien du tout. Je pense à un serviteur de Dieu qui a écrit dans un livre, il dit, avant il aimait beaucoup le Coca-Cola. Au point que non, il a commencé à comprendre que par le Coca-Cola, le diable était en train de le faire tomber dans le péché. Comment ? Il voulait tellement avoir du Coca-Cola que de temps en temps, il pouvait voler de l'argent pour s'acheter un Coca-Cola. Alors il a arrêté. Le Coca-Cola, c'est pas mauvais. C'est comme un danger. Attention mon frère, attention ma sœur, Dieu ne veut pas nous perdre. Si vous voulez demander pardon à Christ, vous voulez revenir à ses pieds, c'est très simple. Baissez la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te demande pardon. Pardon pour ma rébellion, pardon pour mon péché, pardon pour mon désordre. Purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ, lave-moi avec le sang de Jésus-Christ. Je m'engage à suivre Jésus-Christ tous les jours de ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou, nous nous retrouvons dans quelques instants après ce message publicitaire.
Pour votre croissance, votre édification ou votre connaissance spirituelle, découvrez l'émission « Venez à Jésus ». Écoutez et téléchargez gratuitement l'émission « Venez à Jésus » sur le site www.jesuspourtous.org. Retrouvez gratuitement les différents thèmes abordés comme l'identité du croyant en Christ, la seconde venue de Jésus, la mort de Christ et bien d'autres enregistrements. Rendez-vous sur www.jesuspourtous.org, www.jesuspourtous.org.
Bon retour à l'émission « Venez à Jésus ». Je suis Raphaël Mambou. Je suis convaincu au plus profond de mon cœur que le message que vous êtes en train d'écouter maintenant sur la parabole du fils prodigue va changer votre vie. Pas parce que c'est la parabole du fils prodigue, mais parce que c'est la parole de Dieu. Mon frère, mon ami, ma sœur, n'abandonnez pas Christ à cause des biens de ce monde. N'abandonnez pas Christ à cause des souffrances. Au contraire, persévérez avec Jésus-Christ. Je suis convaincu que Dieu a un plan pour votre vie. Ma prière est que vous puissiez écouter tout ce thème en entièreté. Vous pouvez nous contacter, aller sur notre site internet et télécharger gratuitement tous ces enseignements. Je suis Raphaël Mambou. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, la parabole du fils prodigue. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine. Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.